Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Eh oui, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Boris et Bernard sont à la technique. Bonsoir les hommes.
Salut.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à notre invité.
À notre invité qui est Florence. Alors Florence, je suis enchanté de vous recevoir.
Merci.
Pourquoi ? Parce que vous marquez un petit peu le retour de la parole trans à l'émission.
D'accord.
Moi j'y tiens.
Oui.
Alors nous avons déjà eu l'occasion de traiter le sujet avec des personnes concernées, avec l'association Chrysaline notamment. Et aussi à l'occasion de l'Existrance, nous avons toujours un petit crochet fait avec le porte-parole de l'Existrance.
D'accord.
Le ou la porte-parole de l'Existrance, ça dépend des années, c'est pas toujours la même personne. Alors Florence, donc bonsoir et merci d'avoir accepté notre
bonsoir,
invitation.
Bonsoir, c'est moi qui vous remercie, je dis bonsoir aussi à ces messieurs qui sont dans l'aquarium.
Dans le bocal,
dans
voilà.
Dans le bocal, dans l'aquarium.
Dans le bocal, le poisson rouge. Ouais, voilà, il fait bien le poisson, je trouve. Il fait bien le poisson rouge, Bernardo. Dommage qu'on n'a pas l'image.
Ouais.
Alors, donc, Florence, tu es ici en tant que présidente d'une association qui est assez récente, finalement, puisque je crois, si je ne m'abuse, et tu m'arrêteras si je dis des bêtises, elle est née en 2014.
Alors, c'est pas du tout une bêtise, elle est née en 2014. Je suis ici, effectivement, donc, en tant que représentante du jardin d'été en tant que présidente, mais je suis ici aussi en tant que personne transidentitaire que j'avoue et j'en suis très fier.
Voilà. Alors justement, le jardin d'été,
oui.
C'est un jeu de mots.
Oui.
Hein,
un petit peu un jeu de mots.
Le jardin D, plus loin la lettre T en majuscule.
Voilà.
Hein. T pour transidentitaire.
Alors pour trans, on va dire plutôt trans.
Mmh.
Trans avec le petit crochet à côté du N. Parce que ça englobe en fait tout le monde.
Mm-hmm.
Ça englobe les transidentitaires, c'est bien sûr. Ça englobe les transgenres, ça englobe les travestis, ça englobe les queers. Ça englobe toute une communauté qui se cherche dans les multitudes de genres qui existent en fait dans la société. Et on est là pour les accompagner, les aider et les soutenir.
D'accord. Alors, on a donc souvent, on a ici évoqué, plus qu'évoqué, on a fait des émissions sur donc ce sujet. Alors, il y a plusieurs façons, en fait, de faire une émission sur le sujet, justement, et ça dépend aussi des intervenants que nous avons. Si on, avec Chrysalide, par exemple, on était beaucoup sur le plan militant. Le plan militant, c'est les revendications actuelles trans. Les trans souffrent d'une discrimination déjà par rapport déjà au parcours en fait trans qui est rejeté un petit peu par ces associations-là. Je pense à Chrysalide par exemple, le parcours psychiatrique, la stérilisation forcée pour le etc pour le changement de
voilà. Oui.
D'identité, enfin, sur la carte d'identité.
Voilà. L'opération et tout ça.
Voilà. Le jardin d'été se positionne comment, déjà, par rapport
Alors,
à ça
quand nous avons créé l'association en 2014, le mot d'ordre était, justement, aucune revendication. Aucune revendication, c'est-à-dire que notre rôle n'est pas d'aller sur le macadam avec une pancarte et pour crier des slogans et des choses comme ça. Notre mission est beaucoup plus de terrain. Nous travaillons maintenant avec, donc en fait au bout d'un an et demi, on travaille de deux ans presque, on travaille avec les CHU de Lyon, c'est-à-dire tous les hôpitaux de Lyon, on travaille avec les services sociaux de Lyon, on travaille avec, bien évidemment avec la métropole de Lyon. Et si quelqu'un dans l'association fait du bruit, ben c'est peut-être moi, le seul, quoi. En fait, je veux dire, tout le monde est sur le terrain et pas forcément visible.
Mmh.
On fait des visites à l'hôpital, ça personne ne le sait.
Mmh.
On va bientôt faire des visites en prison. Mmh. C'est pareil, tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place, qui se mettent en place tout doucement. Et voilà.
Alors, le jardin d'été, c'est donc une association de terrain, plus
oui.
qu'une association militante.
Absolument. Bon, je milite bien évidemment pour l'identité
de façon
trans,
de militer aussi.
Voilà. Mais en 2014, j'ai fait un rapide état des lieux en France. En France, il y a à peu près, à l'heure actuelle, même pas une dizaine d'associations purement trans qui vivent. Beaucoup sont dans la revendication, à réclamer des tas de choses, ce qui est très très bien pour elles. Mais moi, je ne me sentais pas dans ce rôle-là. Je voulais beaucoup plus être sur le terrain, rencontrer les gens. Dernièrement, j'étais à La Rochelle parce que nous avons monté une antenne à La Rochelle. Ce week-end, j'étais à Paris. Là, je vais partir à Grenoble pour rencontrer des cadres de santé. Voilà. Moi, mon rôle et mon boulot au niveau de l'association, c'est ça. C'est agir sur le terrain directement, Parce que déjà personne ne le fait, ça c'est clair, et puis il faut que quelqu'un le fasse. Et je me rends compte que quand on rentre dans un parcours, alors qu'il soit protocolaire, j'expliquerai après, j'en reviendrai là-dessus, qu'il soit protocolaire ou parcours libre, c'est quand même le parcours du combattant. On a beaucoup de difficultés à savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. Alors, sur le fait des associations qui sont dans la revendication, très très bien, je les suis quasiment pratiquement à 100% avec elles ou derrière elles, ça c'est pas un souci. En ce qui concerne la dépsychiatrisation, ça c'est un autre problème, c'est un autre sujet. Je pense que toutes les personnes qui se lancent dans une transition, que ce soit un garçon ou une fille, a besoin d'être accompagné par un psychologue ou par un psychiatre ou par un médecin en fait, hein, et que cette personne de santé confirme par plusieurs rendez-vous, confirme une pérennité dans le désir et dans l'orientation. Alors, je dis l'orientation, je reprends tout de suite, parce que ce n'est pas du tout l'orientation, hein, mais c'est le désir.
Voilà. Alors, justement, en ce qui concerne le parcours psychiatrique, il y a donc certaines associations trans qui considèrent qu'il doit être abandonné, ou du moins modifié profondément, considérant d'une part que le personnel encadrant ces professions ne sont pas toujours bien formés à la problématique, et aussi qui demande également une déclassification alors ce qu'on appelle entre guillemets les troubles de genre encore, d'une déclassification de la nomenclature psychiatrique. Alors ça a été un peu déclassé, mais c'est resté dans la nomenclature psychiatrique, au même titre que les homos, dans les gays, les lesbiennes avaient demandé la fin de la psychiatrisation.
On est passé du DSM-4 au DSM-5.
Voilà, c'est ça.
On est aujourd'hui plus considéré comme une maladie, et ça que depuis 2004, d'ailleurs c'est assez récent. Mm. Voilà. Là...
Mais toi, Florence, tu dis le parcours. On se connaît maintenant, on tutoie. Donc, toi, tu dis le parcours psychiatrique, il est indispensable. Mais ouais. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il est bien fait, justement ?
Non. Alors, justement, je voulais ressauter sur ce sujet. C'est qu'aujourd'hui, en fait, qui s'occupe ? Bon, moi, je suis trans. Et comment je vais faire ? Je vais essayer de m'orienter vers les cadres de santé. Les cadres de santé, c'est une structure qui est nationale, qui s'appelle la SOFECT. Alors, ne me demande pas ce que veut dire les abréviations, je m'en souviens jamais. Voilà. Mais la SOFECT, donc, a un bureau, enfin une antenne à Marseille, Montpellier, Bordeaux, Lyon, Paris. Bien sûr, j'en oublie toujours un, je ne sais plus lequel. C'est un règlement qui s'est constitué dans les années dans les années 80, hein, puisqu'en fait ça existe depuis j'ai pas la date exacte, mais dans ces années-là. À ce moment-là, en fait, pour avoir droit à des soins style hormonothérapie ou des opérations soit féminisantes soit masculinisantes, il fallait avoir plus de 18 ans, moins de 45 ans, ne pas être marié, ne pas avoir d'enfant, ne pas être hépatique, et ne pas avoir le sida, et encore un certain nombre de barrières. Ça, c'était bon il y a 10-20 ans, parce que en fait, les cadres de santé ne connaissaient pas la transidentité. Et d'ailleurs, ils ne la connaissent toujours pas plus, puisque j'ai rencontré un professeur dernièrement. C'est là justement où c'est mon combat. Au lieu de crier dans tous les sens, je préfère aller voir les professeurs qui font les cours en faculté. Et je leur dis, vous êtes rigolo, mais vous avez un DU, donc diplôme universitaire, un DU de sexologie, qui n'a pas marché à Lyon, mais qui marche à Paris et ailleurs, dans d'autres endroits, où ce sont des scientifiques qui interviennent, psychologues, psychiatres, chirurgiens. Et vous n'avez absolument pas eu l'idée de demander à des trans. Et je ne comprends pas votre logique. Voilà, donc en fait, ça date. Et du coup, l'information est remontée au ministre de la Santé et on attend la réponse. Donc voilà les actions que j'en ai été. Hein. C'est des choses beaucoup plus précises et souvent sur le terrain. Moi, je réclame de participer au DU. Je réclame de participer. Dernièrement, j'ai des élèves de psychologie, psychologues, qui m'ont appelé un peu en criant au secours, en disant, écoutez, voilà, on a eu un cours avec une personne que je ne citerai pas ici, c'est vraiment lamentable. Et donc, on voulait avoir votre avis, comment ça se passe, est-ce que c'est vraiment ça, tout ça. Et donc j'ai dit non, ce n'est pas du tout ce que vous avez entendu. Mais ceci dit, je ne suis pas professeur du tout. Je n'ai pas de diplôme universitaire, en fait, qui m'autorise à dire ça ou à avoir l'autorité pour dire ça. Mais je le crie haut et fort, c'est que nous avons un système qui n'est pas adéquat. Les médecins vont parler de la transidentité 1-2 heures dans leur cursus de médecin. Les psychiatres, on a un petit peu plus de chance, c'est 3h30. Voilà. Et les psychologues, c'est 2 heures. Sur tout leur parcours. Donc on n'aborde que le côté scientifique. Or, aujourd'hui, le côté psychiatrique comme psychologique reste très très freudien. C'est-à-dire que c'est la maman qui est castratrice ou le papa, bon bref. Or, c'est pas ça du tout. C'est que, en fait, quand on est trans à la naissance. Que maman soit là, soit castratrice ou très douce ou tout ce que vous voulez, ça change strictement rien. Et le papa, alors je devrais pas dire ça, mais il peut être là ou pas là, ça va pas changer grand-chose. Je pense que pour l'homosexualité, c'est exactement la même problématique, c'est-à-dire qu'on ne le devient pas, c'est pas un truc qu'on chope en sortant d'une boîte à 2h du matin et on prend froid. Voilà. Le problème aujourd'hui qu'on rencontre, donc, c'est que toutes les personnes qui sont censées s'occuper de nous ne sont absolument pas au courant. Et les endocrinologues, qui sont des scientifiques qui jouent avec les molécules, eh bien, ils tâtonnent. Donc ils ont une panoplie de médicaments, une panoplie de traitements, mais ils tâtonnent encore beaucoup sur des trucs. Il y a des choses qu'ils essayent, puis après ils s'abandonnent, et puis ainsi de suite. Alors c'est vrai que quand même, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès, et que les équipes, enfin les endocrinologues, ont maintenant une bonne panoplie de choses qui sont efficaces. Alors, je reviens aussi sur la définition de la SOFECT, donc cette structure qui s'est montée il y a quelques années, en fait même plusieurs décennies. Ils en sont toujours à cette loi, sauf à Lyon. Où, à Lyon, on a eu le professeur Le Riche, mais qui a donné sa place après à d'autres personnes qui ont un peu révolutionné la notion de la transidentité à Lyon. Et on a des psychiatres, des psychologues, ou que l'on doit voir, mais ils ont un regard, pas de médecin à patient, ils ont un regard très très... gentil d'ailleurs et très humain pour nous écouter. Voilà. Et le rôle des médecins en fait à Lyon est complètement différent par rapport à la SOFECT à Paris. Voilà. J'ai entendu des psychiatres demander à des trans si est-ce que tu parles tout seul, est-ce que tu entends des bruits la nuit ou est-ce que tu entends des voix derrière sur ton épaule. Voilà. Mmh. Ça, c'est pas bon parce qu'en fait, c'est considéré comme le psychotique. Voilà. Et donc, on n'est pas psychotique. On n'est pas maladie, on n'est pas malade. Et ça, faut le dire et le dire et le redire.
Donc, parce que la psychiatrie, souvent, a du mal justement à ça, afin véritablement sortir de son carcan pour évoluer. Mais bon, alors, ça fait plaisir d'entendre que ça évolue quand même.
Alors, ça évolue un petit peu, et heureusement, on a des gens qui crient.
Alors, ça, c'est bien. Le jardin d'été, d'après ce que j'ai compris, c'est donc un de ses objectifs, un des buts que l'association s'est donné, c'est peut-être c'est le dialogue avec le personnel médical, avec les psychiatres.
Comme tu l'as compris, je ne suis pas dans la revendication, je ne suis pas dans la rébellion, je ne suis pas dans le combat, je suis dans le dialogue, dans l'ouverture du dialogue. Ce week-end, donc, j'étais au ministère de l'Intérieur. Là, j'ai vu des professeurs de faculté. Je cherche à comprendre, je cherche à discuter. Mais. En étant très très calme et très posé, on se rend compte que les médecins, les psychiatres, psychologues, tout ça, ne demandent pas mieux en fait aussi à s'ouvrir, à s'intéresser ou à questionner. Moi, j'ai un psychiatre qui m'a dit oui, de toute façon, c'est vrai que nous, en fait, la transidentité, en fait, on n'y connaît rien. Et moi, je suis des patients, mais je les écoute parce que je ne sais pas trop quoi faire d'autre, à part vérifier effectivement qu'il n'y ait pas de pathologie psychiatrique importante, mais voilà. Donc, c'est ça.
D'accord. Donc, en fait, si je résume ta pensée, Florence, tu dis le parcours psychiatrique est nécessaire, mais il faut les personnes soient bien formées.
Il faut l'alléger aussi, il faut quand même l'alléger. Ouais. Et puis, il faut que le psychiatre ou le psychologue prenne bien conscience qu'en fait, nous ne sommes pas malades. Nous ne sommes pas là pour avoir un traitement de guérison, on va dire. Hein, mais on est tout simplement là pour vérifier que notre orientation, en fait, notre orientation est la bonne. Et voilà.
Alors, on parle aussi de la stérilisation forcée.
Oui.
Alors, dans quel cadre on force les gens donc à la stérilisation ? C'est pour le changement d'identité, sur la carte d'identité.
Alors, c'est pour le changement d'identité. Il y a aussi sur les équipes protocolaires qui poussent les gens à « Ok, tu veux être hormoné, tu veux devenir un garçon ou tu veux devenir une fille, donc il faut que tu prennes des hormones et il faut que tu ailles jusqu'à l'opération. » Et il faut que tu aies des relations, enfin, entre guillemets, au début, homosexuelles. Tout ça, c'est la vieille école. Alors, bon, il y a ça. Et puis, il y a aussi l'autre chose, c'est que si, effectivement, moi, demain, je veux changer mon état civil, je suis obligé de passer par l'opération. Et c'est ça aussi sur laquelle on n'est pas du tout d'accord, parce qu'en fait, nous, on a des personnes qui ont extrêmement envie... ou un besoin, parce que c'est un besoin de se féminiser ou de ressembler à un garçon, et ainsi de suite, mais ils n'ont pas forcément envie d'aller sur des opérations castratrices, en fait. Hein, c'est des opérations qui sont irréversibles et très lourdes, comme on en parlait tout à l'heure. Pour les filles, c'est une opération qui dure 6 heures, et pour les garçons, ça dure facilement plus de 10 heures, quoi. Donc c'est très lourd. Et il y a des filles, par exemple, qui veulent garder leurs attributs de garçon, et je trouve qu'on n'a absolument pas le droit de leur obliger cela pour obtenir un papier avec une photo d'identité, quoi. Ça, c'est clair.
Avec un changement d'état civil, ça, c'est une revendication alors que tu partages avec l'ensemble des associations.
Là, je partage ça avec les associations. Je monte à Paris la semaine prochaine parce que j'ai rendez-vous avec un parlementaire pour préparer justement le CEC, c'est-à-dire le changement d'état civil, la nouvelle loi qu'ils essayent de pondre. Même si je ne me fais pas beaucoup d'illusions là-dessus, on va essayer de travailler quand même pour que ça avance.
D'accord, oui, parce qu'il y a aussi le travail avec les politiques.
Avec les politiques, les parlementaires et tout ça, bien sûr.
Bien sûr. Donc, avant d'écouter, faire une première pause musicale, je voudrais quand même redéfinir justement des notions de vocabulaire.
Oui.
Parce qu'on a parlé de transidentité, de transgenre et de trans tout court. Alors, je sais qu'il y a un mot qu'il faut mettre aux oubliettes, et je le comprends parfaitement, ce que je trouve aussi personnellement horrible, c'est le mot qui, ça fait 13 années 60-70, c'est très psychiatrique, c'est transsexuel. Celui-là, on ne l'emploie plus. Il n'y a que ceux qui sont has-been qui les emploient,
non,
qui l'emploient
non,
encore.
Non. Non, 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 mais je pensais que tu allais me dire, en fait, transsexualisme.
Ah oui. Ah oui, c'est encore plus vieux, ça. Ce qu'on a dit.
Le mot est encore plus vieux, mais par contre, ce mot-là, est effectivement très pathologisant, puisqu'en fait, ce sont que les psychiatres qui utilisent ce mot. Alors, il existe transgenre, transidentité, transidentitaire, trans, tout court avec le petit apostrophe. Et transsexuel. Bon, tout ça, ça veut dire en gros à peu près la même chose. Mais on peut décortiquer. Transidentitaire, c'est aussi un petit peu la famille de toutes les personnes qui ont un problème d'identité de genre. Transsexuel, ben c'est le transidentitaire, mais simplement, on a un rapport avec le sexuel, le sexe. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'une personne qui est transidentitaire, ce n'est pas une orientation, c'est une identité. Et j'ai une petite phrase que j'aime beaucoup, toujours placée, c'est pas toujours facile à la placer, celle-là, donc je vais la placer.
C'est le bon moment.
C'est le bon moment. Une orientation sexuelle, c'est la personne avec qui vous couchez ce soir. Et une identité sexuelle, c'est la personne que vous êtes quand vous allez vous coucher. Donc ça permet de bien comprendre, c'est vraiment deux choses différentes. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand moi je fais des conférences, j'évite le mot transsexuel. Parce qu'il y a cette connotation sexuelle, bois de Boulogne, les putes et tout ça, qui nous colle, en fait, malheureusement, encore à la peau, quoi.
Donc on reviendra après la pause musicale sur le jardin d'été pour parler plus précisément, là, cette fois-ci, d'un autre aspect de l'association qui est celui de l'aide et de l'écoute aux personnes trans. On va écouter une petite musique. Alors on a prévu Coccinelle, je crois, Bernard, est-ce que tu peux me confirmer ? Alors Coccinelle qui a été justement un trans très célèbre dans les années 60, très médiatisé. Et un des premiers très médiatisés, on dira.
Oui,
on
oui.
pourra parler plus tard de la visibilité trans, si tant est qu'elle existe. En tout cas, Coccinelle, Bambi, que nous connaissons bien ici à l'émission, sont donc des personnes qui ont été médiatisées à leur époque, à la grande époque. Voilà, et Coccinelle, comme Bambi, ont enregistré des chansons. On va écouter d'abord Coccinelle. Et on revient ensuite après avec le Jardin d'été.
En me voyant, je sais ce que vous vous dites, que je ne suis pas vraiment ce dont j'ai l'air. Vous me jugez, comment dire, insolite. Alors regardez-moi en long, en large et en travers. Cherchez, cherchez la femme. Voyez, je ne cache rien, cherchez bien. En moi, tout le proclame. Que le mot féminin vraiment me convient. Je n'ai qu'un seul programme. Ce soir, c'est de tout faire pour vous plaire. Cherchez, cherchez la femme. Vous verrez que je n'ai pas clair d'en avoir l'air. Quand un cycliste perd les pédales,
forcément ça fait un scandale.
Quand un jockey n'est plus dans la course,
on se dit qu'il manque de ressources.
Quand un coiffeur boucle ses valises,
on doit faire sa psychanalyse.
Quand un pompier a le feu quelque part,
on s'étonne d'un événement aussi bizarre.
Cherchez, cherchez la femme. Son charme est dangereux, oui messieurs. Partout, dans tous les drames. Toujours c'est une femme qui mène le jeu. Elle a tout un programme. De trucs qui rendent fou, méfiez-vous. Cherchez, cherchez la femme. C'est elle uniquement la cause de tout.
Cherchez la femme.
C'est pas mal comme programme.
C'est là notre souci, Dieu merci.
Et notre joie aussi.
On perd des kilogrammes.
Ce n'est pas un drame.
C'est pas qu'on cherche, on est dit, dit,
dit. Et même ceux qui nous blâment,
c'est pas nous,
un jour change d'avis, c'est la
et
vie. Cherchez, cherchez la femme. Et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, et si vous la trouvez, vous en serez ravis.
Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Donc de retour avec Florence du Jardin d'été.
Oui.
Florence Varin, j'avais dit que vous pouvez dire
oui,
ton nom.
Alors,
en entier, Florence Varin, présidente de l'association du Jardin d'été. Alors on va parler maintenant d'un autre aspect donc de l'association et un aspect pour lequel cette association est là aussi, c'est l'aide et l'écoute donc aux personnes trans. Et moi, il y a une première chose moi qui m'interpelle énormément dans la question trans, c'est le coming out. Trans. Parce qu'on parle beaucoup du coming out de nous autres, des gays, des lesbiennes, etc. Le coming out trans, comment se fait-il? Et surtout, alors ça, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Si, par exemple, je prends mon exemple. Moi, étant un petit garçon, pendant très longtemps, je ne savais pas à quel sexe j'appartenais. À un moment donné, petit, je jouais à la poupée. Je préférais aller avec les filles, par exemple, alors que j'étais un garçon, même si les autres garçons se moquaient de moi. Je suppose que pour une personne trans, jeune, un jeune enfant trans, c'est la même chose. À quel moment?
Non,
c'est pas du tout ça.
Non. Enfin, attention, il est difficile de faire une généralité.
Voilà. Par exemple, je peux dire, j'assume une certaine part de féminité, je ne renie pas mon sexe, mais voilà.
C'est très rare ça. Alors, je veux dire, sur 100 trans, il y a 100 parcours complètement différents.
Oui, oui.
Attention.
Mmh.
Donc là, je vais parler juste de cas que je connais. Très souvent, en fait, dans l'enfance, on se rend compte que papa et maman ont désiré un garçon. Je vais prendre le cas d'une personne M2F, pardon, donc mâle vers la direction femelle. Ce garçon a compris aussi très très tôt que s'il veut être aimé par papa et maman, il faut qu'il rentre dans les rangs, qu'il rentre dans les clous et qu'il rentre dans le genre qu'on lui demande. Et c'est là où, en fait, on commence à rentrer dans le déni de nous-mêmes. C'est assez problématique. Et ce que je te disais, c'est que la première personne transphobe que nous rencontrons sur notre parcours, eh bien, c'est nous-mêmes. On va s'affliger tout un tas de choses absolument abominables. On va commencer déjà à mentir. Mentir à papa, maman. On va commencer à mentir à ses amis.
Mais à quelque part, ça va même au niveau de la grammaire, finalement, parce qu'on est obligé de parler dans un genre qui n'est pas le nôtre.
Oui, mais on ne sait pas non plus forcément que le genre, en fait, notre genre de destination est autre que celui de notre assignation. Donc on est très très mal dans ses baskets, on est très mal dans nos baskets, on est très mal dans une société qui comprend rien du tout d'ailleurs, et qui nous demande d'être impérativement un garçon. Donc, pour s'inscrire et rester dans cette société, on va tout faire pour effectivement répondre à ces codes. Mais voire même certaines fois, d'ailleurs, en exagérant. C'est-à-dire, j'ai rencontré moi, des personnes transidentitaires qui, avant de faire leur coming out, étaient très, très, très macho, à la fois, à la limite de la connerie d'ailleurs, mais voilà, c'est ça. Après, quand on réalise qu'on est en fin de compte transidentitaire, mais le petit clic qui va nous permettre de réaliser cela, ça peut être les réseaux sociaux maintenant, ça peut être une émission de radio d'ailleurs, ça peut être une émission d'un film, ça peut être une rencontre, tout ça. Où on se dit, ah mais attends, ça c'est ce que je suis ça en fait. Et donc on va chercher du coup à réaliser tout ce que, faire un petit peu une marche arrière et se dire, bon j'ai menti à tout le monde. Et le fait de mentir à tout le monde dès le plus jeune âge, ça ne nous met vraiment pas bien dans nos baskets. Et on va essayer de dire petit à petit au monde extérieur, attendez, vous ne me voyez pas du tout de la bonne façon, ce n'est pas comme ça qu'il faut me regarder, parce qu'en fait je suis une fille. Ok, je suis une fille enfermée dans un corps d'homme, mais en fin de compte, au fond de moi, je suis une fille. Voilà, ça c'est le coming out. Moi, je m'en souviendrai toujours. C'est mon coming out. Je veux parler du mien que j'ai fait. Alors, je l'ai fait auprès de mes enfants. J'ai 3 enfants, un garçon, une fille et 2 filles. L'aîné a 15 ans et la petite dernière a 7 ans maintenant. Mais à l'époque, elles avaient, tous avaient 2 ans de moins. Et je leur ai dit tout simplement, voilà, dans chaque être humain, il y a une part de féminité, une part de masculinité. Et puis, ben, en principe, en règle générale, dans 80% des cas, tout se passe bien, tout, dans le meilleur du monde, tout va bien. Et puis, chez certaines personnes, eh ben, y a un dérèglement. Et on n'est pas bien du tout dans les baskets, parce qu'on est né, par exemple, garçon, et en fait, on se ressent, au plus profond de soi-même, comme une fille. Ou l'inversement, on est né fille et on est dans la tête garçon. Et puis, voilà. Et j'ai arrêté mon discours, là. Mes enfants m'ont regardé, c'était un samedi, il était midi moins de quart, et mon fils aîné, qui à l'époque avait 14 ans, me regarde et me dit « Bon, papa, t'as fini ?» Je lui dis « Oui, c'est fini, mais je pense que vous avez des questions. »« Ah non, moi j'ai faim. »
Ah oui.
Bon, on est passé à table, et bon, à table, on a effectivement rediscuté de ça, et j'ai compris que, en fait, les enfants avaient repéré qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose. Mais bon, j'ai jamais joué au ballon avec mon fils. Et ainsi de suite, quoi. Et en fait, en leur parlant tout simplement, avec des mots tout simples, j'ai mis les mots sur ce qu'eux ne savaient pas. Mmh. Et du coup, ma fille, qui à l'époque avait 11 ans, elle me dit « Mais oui, pas, mais on le savait, ça. » Voilà. Ouais. En fait, elle savait, mais elle n'avait pas les mots pour l'exprimer. Voilà. Donc ça, c'est la verbalisation est très, très importante. Il faut verbaliser, il faut expliquer, il faut s'exprimer. Alors, le coming out, on le fait souvent en premier. Bon, pas forcément avec ses enfants, mais avec ses amis, son meilleur ami, ou sa sœur, ou son frère, avant d'attaquer la grande partie.
Le gros morceau.
Le gros morceau, papa-maman. Ouais. Voilà. Mmh. Et c'est un moment qui est extrêmement important, qu'il ne faut pas précipiter, mais sans le précipiter, je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible dans sa transition. Parce que ça va permettre de se libérer d'un poids énorme sur les épaules.
Et tu penses qu'à l'heure actuelle, quand même, les gens ayant plus de connaissances à ce sujet, le grand public, je veux dire, le coming out trans se passe mieux ou... Enfin, ça dépend des cas aussi, certainement. Il doit y avoir peu de parents qui disent « Ouais, super, nous, on attendait que ça. »
Non, ça, je pense pas. Ça, je pense pas. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la personne qui est trans... Moi, je veux dire, j'ai rêvé pendant des tas d'années à ce que je rencontre un professeur avec le petit chapeau là sur la tête et qui me dit « ça y est, j'ai trouvé un médicament pour que tu deviennes un homme ». Et moi, je ne prenais pas le médicament, je prenais le tube en entier.
Ouais.
Parce que c'était pour moi atroce, cette dualité, ce combat intérieur. Et le fait donc de faire le coming out, c'est justement « ça y est, on choisit sa voie et on se sent beaucoup plus léger ou légère et puis ça va beaucoup mieux ». Aujourd'hui, est-ce que c'est mieux accueilli? Non, non. Non, non, pas du tout. La population, enfin lambda, ne connaît toujours pas ce qu'est la transidentité. C'est pour ça que j'essaye, moi, de multiplier mes interventions en radio, à télé, en fait, toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, on se rend compte que on a beau en parler, mais les gens, non, ils passent à côté complètement. Et dernièrement, en fait, j'ai une jeune fille qui m'a appelé, qui est désespérée parce qu'en fait, son papa l'a mis dehors. Donc, il existe encore des exclusions comme ça. Des témoignages du style oh là là, moi si j'ai un enfant qui est comme ça, ben je le tue, quoi, je préfère le tuer. Enfin bon, on entend tout un tas de choses. Par contre, je pense que sur les jeunes générations, oui, les jeunes générations ont compris que la situation, sans vraiment forcément comprendre ce qu'était la transidentité, mais en fait, on retrouve un peu la mentalité canadienne où bah, tu as le droit de faire ce que tu veux de ton corps à partir de ton maître personne. Voilà. Et les jeunes sont, je pense, comme ça. Et moi, techniquement, en fait, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir sur les jeunes générations qui montent.
Alors, donc, le coming out, on a compris, le parcours trans n'est pas toujours très facile. Non. Tu viens de nous le dire. En plus, donc, d'après ce que je comprends, tes enfants étaient déjà grands lorsque tu as fait ton coming out. Mmh. Ça veut dire que toi, on ne va pas te dire ton âge.
Ah, mais si.
On peut.
Oh, oui.
Non, parce que ça fait partie hein, de la coquetterie féminine.
Oui,
tu
n'aimes
pas dire son âge.
Oui, hein, tout à fait.
Voilà.
Non.
Mais moi
non,
aussi,
mais
je ne peux pas dire mon âge.
Je le dis, en fait, si vous voulez, j'ai 20 ans depuis une vingtaine d'années. Voilà.
D'accord. Donc, ça veut dire que lorsque tu as fait ton coming out, tu étais déjà un adulte,
oui,
etc. Et à ce moment-là, socialement, tu vivais en homme.
Ah, complètement, oui.
Voilà.
Je vis alors, en homme.
Voilà.
Dans un même métier, d'ailleurs, j'étais chef de cuisine, donc un métier qui est quand même assez masculin, quand même. Et voilà, je sais mon marché tous les jours. Tout le monde me connaît sur la Croix-Rousse, par exemple. Tout le monde me connaît en tant qu'homme. Et je prends un malin plaisir aujourd'hui à faire mon marché. Bon, bien évidemment, je suis en femme depuis. Maintenant, je suis en femme depuis 2 ans. Et je le vois dans le regard des gens. Il y a des gens qui ont un petit sourire de complaisance, et d'autres qui je suis rentré dans une banalité, donc tout va bien en fait. Et puis il y en a d'autres, c'est n'importe quoi.
Donc on voit à quel point le parcours trans peut être complexe finalement.
Oui.
Donc des personnes peuvent vivre un enfer toute une vie finalement.
Oui.
S'ils n'arrivent pas à gérer finalement ce coming out et puis le fait de dire les choses et de d'extérioriser son ressenti,
oui.
Socialement, alors, personnellement, c'est très complexe.
C'est assez complexe. C'est effectivement un parcours qui est très dur, qui est très très difficile. Et il y a énormément de souffrance. Et je veux dire, moi, mon coming out forcé, en fait, j'ai dû, pas celui que j'ai fait auprès des enfants, mais auprès des services médicaux. Je l'ai fait à la suite d'un suicide, d'une tentative de suicide où je me suis mis un couteau dans le ventre. Ah, donc c'est les pompiers qui sont venus me chercher avec la police. Et donc du coup, j'étais pris en charge par les services sociaux et assistantes sociales et un psychiatre. Le psychiatre que j'ai vu qui ne connaissait pas du tout la transidentité, moi j'avais plus la force de lutter contre moi-même. Donc je lui ai dit, écoutez, docteur, j'ai plus envie d'être un garçon. J'en ai marre de jouer, j'en ai marre de mentir, j'en ai marre d'être de pas être moi-même, quoi. Et il m'a regardé, il me dit, bon, alors là, excusez-moi, mais je connais pas du tout votre truc. Et puis, en fin de compte, ben, vous allez sortir aujourd'hui. Voilà. Donc ils m'ont vite libéré. Et c'est mon médecin traitant, tout simplement, à qui je lui en ai parlé, toujours parce que j'avais pas récupéré la force de lutter contre moi et je n'en avais plus envie, en fait. Je lui ai dit, écoutez, voilà, docteur, j'ai un problème d'identité. À l'époque, je disais un problème d'identité sexuelle. Et il me dit, bon, bah, écoutez, il n'y a pas de souci. Il y a une équipe spécialisée à Lyon qui s'occupe très, très bien de ça. Et du coup, donc, moi, je suis entré dans le Paracletis. Et c'est là, en fait, que j'ai découvert la transidentité, parce que je ne connaissais pas du tout avant. Pour moi, il y avait les homosexuels, oui, d'un côté. Les transformistes, d'un autre côté. Ceux qui s'amusent à se travestir, voilà. Ce que j'ai été moi-même d'ailleurs en fait pendant très très longtemps, travesti, et j'avoue que c'était pas complet, quoi. Il fallait que je passe la vitesse supérieure, voilà. Mais là, donc déjà, c'est un ensemble de difficultés, et les difficultés en fait sont loin d'être finies, parce que en France, pour avoir une hormonothérapie, là je vais parler du traitement en fait et des conséquences, pour avoir une hormonothérapie, il faut passer chez un psychiatre. Alors, soit en protocole, soit en parcours libre. Hein. Et ce psychiatre doit faire un certificat ou une attestation de transsexualisme révélée sans pathologie psychiatrique lourde. Et donc là, on va avoir accès aux hormones. Mais les hormones, c'est un traitement. Ce sont des médicaments qui sont très très lourds, qui fatiguent énormément. Donc en fait, on va toucher la plateforme hormonale. Hein. Donc la plateforme hormonale gérant à peu près 90%, 95% de tous nos traîtres. Il faut bien se rendre compte que quand on va toucher ça, tout est peut-être en bousculement. Et souvent, je dis souvent, c'est en fait les filles, on est un petit peu comme les dames qui ont leurs règles, mais c'est multiplié par 10, quoi. Alors, on est soupolé, on est caractériel, en fait, tout un tas de choses. Et c'est à ce moment-là qu'il faut justement qu'on discute, qu'on parle, qu'on fasse du coming out et qu'on sorte du placard. Et c'est là où je parlais de l'association, puisque la sortie de placard, bon, donc nous, bien évidemment, on en fait, c'est-à-dire que nous accompagnons des gens, nous allons chercher chez eux, on les sort tout doucement. Là, nous avons dans l'association une commission qui est groupe de parole, où les gens peuvent s'exprimer, ou tout simplement poser des questions, en fait, ou rien dire du tout, et puis simplement écouter. Ça, c'est important. On a, après, moi, j'ai une commission que j'aime beaucoup, c'est la commission hébergement, hein, puisque nous hébergeons les personnes. Lyon réalise 50% de réassignation sexuelle. Et donc, ces 50%, ça fait que Lyon Sud reçoit à peu près entre 1500 et 2000 personnes par an pour consulter, psychiatre, psychologue, chirurgien, tout ça. Et ces personnes-là viennent de partout en France. Donc il y en a qui ont les moyens de payer un hôtel et il y en a qui n'en ont pas les moyens de payer l'hôtel. Et celles-là, nous les hébergeons. Voilà. Donc on a monté une structure d'hébergement qui est repris d'ailleurs par la métropole cette année, puisqu'on va présenter un dossier beaucoup plus complet au ministère de la Santé, pour que ça soit pris en charge par le ministère de la Santé. Puisqu'en fait, là, on parle d'une problématique de santé. Voilà. On a après d'autres commissions. Voilà.
D'accord. Alors, il y a aussi Jardin d'été, association de terrain, donc, mais il y a aussi quelque chose à laquelle tu tiens beaucoup, qui a été mise en place il y a peu de temps, je crois, c'est une ligne d'écoute.
Ah oui, la ligne d'écoute, ça, c'est extrêmement important. Ça a été mis en place début de cette année. C'est le 0800 600 608, ça je le dirai plusieurs fois d'ailleurs. Ouais.
Hein. On le répétera et puis je mettrai les informations.
Parce que ça c'est très important. C'est une ligne d'écoute qui permet à toutes les personnes, donc en France même à l'étranger, enfin je suis mal loti quand c'est des Anglais parce que là je comprends rien du tout, mais bon. Cette ligne d'écoute permet aux gens de parler. Alors quelqu'un qui est trans elle-même, donc déjà, on a moins d'appréhension. Les gens, je pense que les gens ont compris que derrière le téléphone, c'était pas une personne qui allait juger, qui allait dans le jugement, qui allait dans la critique. Moi, je suis là, j'écoute les gens.
Ça, c'est très important parce qu'elles sont écoutées par des personnes concernées.
Et beaucoup, en fait, je dirais, un peu s'entraînent à parler en disant « Bonjour, moi, je suis trans, j'ai 20 ans, je sais pas comment l'expliquer à mes parents, ou ainsi de suite, ou ainsi de suite, ou ainsi de suite. » Ça, c'est les cas les plus sympas. Je dis les plus sympas parce que des fois, c'est beaucoup plus dramatique quand c'est...
On parlait de suicide, par exemple, voilà, ça peut être un outil de prévention du suicide, la ligne d'écoute.
Ça, c'est un outil tout à fait de prévention de suicide, parce que je me suis rendu compte, quand on approche des fêtes ou des choses comme ça, j'ai un petit peu plus d'appels de personnes qui ont fait envie d'en finir. Voilà. Donc des fois, je passe 2 heures au téléphone, mais voilà.
Oui, ça peut sauver une vie, hein, c'est sûr.
C'est pas de prix, quoi, bien sûr, ouais. bien évidemment. Donc je suis là, je les écoute, et puis après, en fait, on essaie aussi de faire un suivi. C'est-à-dire que, en fonction des éléments et des informations recueillies, soit je les rappelle dans la semaine, ou un petit peu plus tard, ou on essaye de se voir, ou ainsi de suite, voilà.
Donc c'est une véritable bouée d'oxygène, en fait, pour des personnes souffrantes, d'entendre, d'avoir au bout du fil une voix qui comprend complètement.
Qui n'est pas du tout dans le jugement, et ainsi de suite, quoi, bien sûr.
Une question aussi qui m'intéresse, parce que c'est une question que tu as évoquée un petit peu, et là, ça va peut-être rejoindre un petit peu aussi la transphobie. D'une part, on peut parler de la transphobie d'État, puis d'autre part, de la transphobie en général, puisque... Je sais que tu m'as dit avant l'émission que tu donc voulais travailler dans auprès des personnes incarcérées.
Alors, oui. On a une commission depuis quelque temps, parce que justement, en travaillant avec les hôpitaux, en voyant ces personnes de santé régulièrement, j'ai eu l'autorisation de faire ce qu'on appelle une commission qui fait visite à l'hôpital. Donc on visite toutes les personnes à Lyon qui ont été opérées en réassignation sexuelle. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui souvent viennent d'un petit peu partout de la France. Je redis, Lyon fait 50% de réassignation en France, hein, donc ce qui est quand même en fait énorme.
Oui, hein, en effet.
C'est énorme. Et là, c'est ce qui fait aussi que pour une réassignation, il y a 3 ans de délai maintenant. Quoi.
Oui. Voilà, donc ça, c'est dû au fait que Lyon est réputé pour...
Parce qu'en fait, à Lyon, nous avons Nicolas Morel-Journel qui est un chirurgien hors pair. Qui est accompagné ou qui va bientôt être accompagné au mois de novembre par Jean-Étienne Terrier. Mais c'est aussi, hélas, dû un peu à la mauvaise volonté des équipes extérieures. Quoi. Nicolas Morel-Journel, c'est un chirurgien urologue. Donc en fait, pour moi, c'est un plombier. Il connaît la plomberie. À Paris, c'est un chirurgien esthétique.
D'accord.
Donc la problématique est tout autre. Moi, je préfère avoir quelque chose d'un petit peu moins joli, mais d'efficace et d'opérationnel.
Ouais.
Voilà. Donc, voilà. Ça, donc, on fait 50%. Donc, pour revenir à ces visites à l'hôpital, donc, on rencontre des gens de toute la France, ce qui est d'ailleurs assez agréable et assez plaisant. Et je me suis rendu compte, en fait, il y a à peu près 3-4 mois, j'ai eu un message d'une personne, en fait, qui m'annonçait que... Je peux dire son prénom, de toute façon, c'est pas d'importance. Elle s'appelait Nathalie. Et Nathalie s'est tuée en prison. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça ? Parce que pour moi, dans ma tête, je n'avais même pas réfléchi qu'il pouvait y avoir effectivement des trans en prison.
En prison, oui.
Le milieu carcéral représente aujourd'hui 66 000 personnes.
Ouais.
Et là-dedans, bien évidemment, à raison de 2 personnes pour 1000 trans, d'ailleurs, on en a automatiquement pas mal.
Ouais.
Et donc j'ai décidé de monter une commission pour rendre visite aux personnes en prison.
Alors le problème, je dirais, est-ce que l'État prend en compte le côté transidentitaire de la personne ? Est-ce que la personne est... voilà, c'est ce que j'allais dire. Allez, Nathalie, je suppose, était incarcérée en prison pour hommes.
Oui. Et bon, elle avait subi 2 viols et puis enfin bon, voilà.
En prison.
On a des données qui sont très 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 mauvaises parce qu'en fait l'État a considéré jusqu'à présent en fait que la population trans était de 1500 personnes trans en France. On est très 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 loin du compte.
Surtout s'il y a déjà 2000 personnes par an qui viennent à Lyon.
En fait, on serait à peu près 300 000. Donc c'est pas du tout la même chose. Et quand je parle 300 000 personnes, je parle des personnes qui sont tout juste reconnues par la sécurité sociale comme trans et des jusqu'à l'opération. Après, les personnes après l'opération, on n'en parle plus parce qu'en fait, elles sont fuyantes et elles se mélangent à toute la population. Donc, on ne les a plus, on ne les capte plus. Et avant, on ne peut pas les capter puisqu'on ne les connaît pas encore. Donc, on est à 300 000. Donc, ce qui sous-entend, en fonction des données que nous avons, qu'on peut se tromper. À mon avis, on se trompe, on est largement en dessous. Mais bon, voilà. Les personnes en prison ne sont pas du tout incarcérées dans leur genre de destination. Et j'ai croisé une jeune fille, 25 ans, ouais, toute mignonne, toute menue, bon, fait une bêtise, ok, et qui est en prison chez les garçons. Donc là, ça, c'est évident que j'ai tout de suite demandé à ce que les choses changent. Donc j'ai été reçu la semaine dernière à la direction générale à Paris des gens qui s'occupent en fait des lieux de privation de liberté pour exposer tout ça. On est arrivé sur une conclusion qui est catastrophique, c'est que les filles, en fait, pardon, quand je dis les filles, c'est les garçons qui deviennent filles. Les M2F sont enfermés avec les garçons et les F2M sont enfermés avec les filles. Ce qui engendre, donc tu dois bien imaginer, de la violence, de l'agression et des délits sexuels. Je leur ai dit, écoutez, c'est tout simplement, rétablissez la peine de mort, puis vous les tuez, ces personnes, ça sera beaucoup plus vite fait, et ça ira beaucoup mieux. Donc là, je pense que littéralement et vraiment, on a quelque chose, un poids important à renégocier avec l'État. Mais vu comme j'ai été reçu dans les bureaux, à Paris, par le ministère donc, de la Justice, il y a une très très grande ouverture.
Donc on ne peut pas parler de transphobie, mais plutôt de trucs un peu administratifs. Tu as une carte d'identité masculine, un état civil masculin.
C'est ça, c'est ça.
Voilà.
Oui, c'est ça.
On ne réfléchit pas.
Tu as les papiers garçons, donc tu vas avec les garçons.
Ouais.
Mais il faut aussi voir une chose, c'est que pendant très 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 longtemps, les trans, qui n'avaient pas forcément accès aux soins et à tout ça, donc on était travestis. Donc on revient sur la petite bête de foire, on revient sur toutes ces notions-là. Voilà, plus l'État qui disait, pensait qu'on était 1500, donc il n'y avait pas de recherche particulière de fait. Là, je le vois quand on est rentré à Paris, je leur ai dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais sur vos 66 000 personnes, il y en a 80 qui se sont tués l'année dernière. 80 trans. Hein. Donc, ça pourrait, il y en aurait 10, ça serait exactement le même schéma, bien évidemment. Mais donc ça, on peut pas l'accepter. Donc on va essayer au niveau national, de trouver des correspondants pour qu'ils visitent en prison. Et dès qu'il y a un souci, le signaler tout de suite à la direction générale, puisqu'ils m'ont promis que là, ils interviendraient immédiatement. Et on va essayer de trouver des formules incarcérales, style. Parce qu'aujourd'hui, certaines prisons, en fait, mettent les trans en isolement. Donc dans les quartiers de sécurité. Donc en fait, on parlait de coming out. Eh bien là, c'est pas un coming out, mais c'est un outing. Ce qu'on appelle l'outing, c'est je dis à tout le monde que tu es homosexuel, sans que toi-même tu l'aies déclaré à qui que ce soit. Voilà. Et donc on n'a pas le droit de le faire. Et en montrant les gens comme ça du doigt, bon, les filles ou les garçons d'ailleurs, en fait, eh bien sortent pas de leur cellule, puisqu'elles veulent pas aller se promener, elles veulent pas rien faire du tout. Et voilà. Donc on retombe sur une désociabilisation qui représente malheureusement dans notre communauté facilement 37% de gens qui se désociabilisent. Voilà. Donc il faut intervenir.
Voilà. Donc beaucoup de pain sur la planche pour le jardin
d'été.
Oui,
bien sûr.
La transphobie, je l'évoquais un petit peu. Comment elle s'exprime, la transphobie, pour le quotidien justement d'une personne trans ? Elle est variable.
Elle est extrêmement variable.
Ça peut être violent.
Ça peut, être très violent, ça peut être, je vais dire des mots crus et qui ne sont pas très, très corrects, mais ouais, le PD, ouais, le trav, ouais, le trans, c'est souvent, d'ailleurs, rarement trans, d'ailleurs, mais c'est surtout ouais, le travelot, voilà. Et la problématique, c'est en fait pour les garçons qui deviennent filles, on a cette transphobie donc de transition, enfin on va dire, et puis petit à petit, au fur et à mesure de la modification que nous avons, eh bien on rencontre la problématique féminine, parce que on est effectivement un pays de liberté et de droit, mais aujourd'hui les filles sont pas vraiment à la noce. Tu prends une jeune fille cise qui traverse toute la rue de la République. Si elle a un petit chemisier et une petite jupe parce qu'il fait beau, puis parce qu'elle a envie de se mettre comme ça, eh bien, je lui mets mon billet qu'en fait, elle va se faire critiquer, elle va se faire siffler, elle va avoir des propositions. Pas forcément alléchantes. Voilà.
Oui, c'est-à-dire que la personne trans va se retrouver, enfin, en tout cas, la personne M to F, homme vers femme, en transition homme vers femme, va se retrouver confrontée aux discriminations liées à la condition féminine dans son pays, notamment
comme,
en France ici.
Comme d'ailleurs un petit peu dans l'autre sens, où on va demander au F to M d'être viril, de ressembler vraiment à un garçon, et de s'intégrer dans un machisme. Voilà. Donc, en fait, on a un petit peu toutes ces notions. On n'a pas encore compris que nous vivions sur une planète où on est 6 milliards, je crois, 6 milliards d'habitants. Et puis moi,
bientôt 7, je crois.
Bientôt 7, d'accord. Et je pense qu'on a 7 milliards de genres différents. Chaque individu est particulier, est exceptionnel et a son propre genre.
En ce qui concerne la sociabilisation, parce que, bon, le jardin d'été intervient sur le problème individuel, personnel, de souffrance personnelle, mais après, il faut aussi que la personne, toute personne a envie d'être sociabilisée, avoir un travail, avoir des amis, et c'est là aussi que ça se complique quand même. Avoir un travail, avoir des amis, garder des amis après un coming out, c'est difficile.
Oui, c'est difficile.
Ouais.
Après le coming out, en fait, quand on fait le coming out, on prend le risque de perdre ses amis, on prend le risque de perdre ses parents, et on prend le risque de perdre son boulot. Et son couple, si pour ceux et celles qui sont mariés. Moi, dans l'opération, j'ai perdu mon couple. Ma famille, je n'en avais plus, donc ça, c'est pas un souci. Et les amis, certains sont effectivement partis. Je pense être quand même gâté pour ça, parce que j'ai à peu près gardé mon noyau d'amis. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile, et beaucoup préfèrent se désociabiliser, rester chez elles, en catimini, pas trop sortir, pour ne pas être confondu à ça. Ce qui est extrêmement dommage, d'ailleurs, parce que c'est pas du tout le but du jeu. Je dis souvent, ça, en fait, une transition, on la vit, on ne la subit pas. Hein? Voilà, ça, c'est une chose. Après, au niveau du boulot, alors ça, c'est extrêmement variable. Et là, le jardin d'été intervient encore, puisque nous avons une commission qui s'occupe de ça, où nous allons, dans l'entreprise, présenter aux collègues ou à la direction, expliquer ce qu'est la transidentité, et surtout expliquer ce qui va se passer dans la personne employée dans l'entreprise. J'en veux, pour exemple, une des dernières interventions que j'ai réalisées, c'était à Paris et à Lyon, dans le groupe Orange. Les DRH m'avaient demandé d'intervenir parce qu'ils avaient un cadre supérieur qui entamait une transition, qui allait devenir donc une fille. Et donc, on a fait une conférence, en fait, tout simplement, une conférence débat à Paris et une à Lyon pour expliquer ce qu'était la transidentité et surtout qu'est-ce qui allait se passer dans cette personne. Elle n'allait pas du jour au lendemain, par un petit coup de baguette magique, devenir une femme. Donc, il y allait avoir des passages, des étapes, tout ça. Et la première étape, c'était le 14 décembre, je crois, où elle a décidé de rentrer au bureau et d'aller au bureau habillée en fille. Enfin. Et depuis, elle n'a pas changé, elle est très contente, elle est très heureuse. Donc le jardin d'été intervient aussi sur ce terrain, parce que beaucoup de patrons, en fait, et j'en veux pour preuve au moment de l'embauche, par exemple, quand le DRH fait son compte rendu au patron en disant, bon, voilà, pour le poste de choses, on a reçu tant de personnes, il y en a une qui est super, mais en fait, elle est transidentitaire. Et là, le patron dit, non, je ne veux pas de problème, je ne veux pas d'ennui. Donc voilà, beaucoup d'entre nous sont privés d'emploi pour ça.
Ouais.
Là, on est en train d'établir un dossier qui va certainement sortir au prud'homme pour une fille qui première visite dans un salon de coiffure, elle est coiffeuse et a tous les diplômes, vraiment tous les diplômes pour être coiffeuse et exercer ce métier avec effectivement énormément de compétences. Premier rendez-vous, parce qu'elle répondait à une annonce qui était sur la vitrine, elle rentre. Elle voit la directrice du salon, se présente, lui explique. La fille lui dit « Oui, écoutez, moi, vos compétences m'intéressent, mais j'ai un associé. Revenez voir demain et vous verrez mon associé. » Elle revoit le lendemain son associé. L'associé dit exactement la même chose que la première personne en disant « Oui, je suis d'accord, c'est sympa, c'est génial. Enfin, on a trouvé quelqu'un pour remplir ce poste. Vous passez au bureau et puis lundi, vous commencez. » Voilà. Et quand Vanessa a sorti ses papiers d'identité et sa carte vitale, là, le monsieur a dit « Ah, non, là, excusez-moi, mais non, il va y avoir un souci. Voilà. »
Et ça, c'est des problèmes confrontés dans la vie professionnelle et sociale en permanence.
C'est en permanence.
Donc c'est vrai que ça nécessite d'avoir beaucoup de force de caractère et de résistance
tout à fait.
Psychologique pour affronter tout ceci.
Mais il faut le faire parce que c'est important faire une transition,
oui, je pense, bien sûr.
D'avoir un travail ou une occupation dans cette transition. Parce que beaucoup de personnes, quand ils font une transition, sont nombrilistes, ne regardent que leur petit cas et en font toute une vie. Et donc, il y a quand même une vie après la transition, quoi.
Oui.
Heureusement.
Est-ce qu'on peut dire que la condition... Alors, tu évoquais, par exemple, l'aspect... Malheureusement, l'heure tourne, on va devoir faire vite, mais très rapidement, l'aspect, justement, prostitution. C'est vrai que les gens associent aussi beaucoup travestissement et transidentité à la prostitution. Moi, étant jeune, je sortais beaucoup. J'avais des amis trans qui se prostituaient, qui disaient que ça coûtait cher les traitements, etc., que personne voulait d'eux. Ça, c'était il y a un certain nombre d'années, il y a un certain âge. Est-ce que ça a quand même évolué, ça?
Oui.
Oui.
Alors, ça a évolué, parce que Lyon, sur les 2000 personnes à peu près qui reçoivent, il y en a très très peu qui ne sont pas acceptées dans le protocole. que le protocole, on fait un ALD et le traitement est pris en charge. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une transition coûte cher puisque c'est pris en charge par l'État. D'ailleurs, heureusement que c'est pris en charge par l'État parce que autrement, ça coûterait trois fois plus cher à l'État. Hein, par les suicides, par les scarifications, les mutilations et toutes les mises en danger. Donc ça, c'est pris en charge. Il y en a, hélas, encore beaucoup, mais de par le fait qu'elles se sentent rejetées dans le monde du travail...
Voilà, c'est qu'il faut pas le choix.
Se lancent dans la prostitution. Là, nous, on essaie... Mais
apparemment, il y a beaucoup de précarité économique, finalement. Oui, plus de tout ça, se rajoute la précarité économique... Oui. Bon, ça fait beaucoup. Mais heureusement, il y a le jardin d'été. On rappellera le numéro.
0800 600 608.
Bravo, elle le fait très bien. Pour terminer, puisque malheureusement l'heure tourne, on aurait pu rester ensemble encore plus longtemps, mais nous n'avons qu'une heure.
Ça a été avec plaisir.
Donc, la visibilité trans. Est-ce que la visibilité... Alors moi, on va parler par exemple de certaines séries télévisées américaines notamment... ou de Kathleen, de certaines personnalités, etc. Est-ce que ça aide quand même, cette visibilité ?
Oui.
Oui.
Oui. Oui, parce que en fait, j'ai beaucoup de personnes que je vois pour la première fois qui rentrent dans le parcours, qui rentrent dans tout ça, je leur dis, mais comment t'as su que en fait, tu étais trans ? Quel a été le déclic, en fait ? Ah, ben c'est parce que j'ai vu une émission et là, je me suis reconnu. Je me suis reconnu dans cette problématique. Voilà. Donc oui, c'est important. Plus on en parle... c'est l'essentiel d'en parler. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, encore hélas, personne ne connaît la transidentité.
Oui, c'est vrai.
La visibilité, le maximum de visibilité.
Et comme on en discutait hors antenne, même les associations LGBTI, qui ont rajouté le T et le I, souvent, c'est des thématiques qui sont... Il faut en fait que ce soit vous-même, mais c'était aussi le cas pour les gays et les lesbiennes d'ailleurs, hein, que ce soit vous-même qui prenez en charge.
Non, mais voilà. Il faut que nous, on soit présentes, ça c'est clair, présents et présentes, pardon. Parce que la communauté LGBTI ne nous connaît pas non plus, il ne faut pas perdre de vue que dans cette communauté, il y a des transphobes, et ainsi de suite. Et c'est à nous aussi de dire, attention, maintenant on est là, il faut compter sur nous. Ouais. Voilà, ça c'est important, ça fait partie de la visibilité. Ça a été le mot d'ordre en 2014 de l'association, se rendre visible, c'est-à-dire sortir, bouger, être vu et être visible.
Donc le jardin d'été, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais est-ce qu'il y a des permanences, si on peut...
Alors, oula, oui.
Donc il y a la commission parole, il y a beaucoup de choses.
Le groupe de parole, c'est le premier samedi de chaque mois.
D'accord.
Ça se passe au Feuillant, au sein de Petite Rue des Feuillants. On a depuis peu une permanence santé et prévention
voilà, au
trans.
Centre de santé et de sexualité sur les pentes de la Croix-Rousse.
Qui est 5 rue du Griffon, ça c'est tous les mercredis soirs.
Et d'ailleurs, tu as écourté spécialement pour nous, donc t'en remercions, ta permanence de ce soir.
Voilà. Et moi, je fais une permanence au centre LGBTI le dernier samedi de chaque mois pour recevoir les parents, amis, collègues qui ont des questions. Voilà. Et à ce titre-là, je reçois souvent des parents en fait, qui sont en plein trouble en disant « Voilà, mais mon fils vient de m'annoncer qu'en fait, il voulait être une fille, mais je ne sais pas du tout comment il va faire. Est-ce qu'il va être heureux ?» Ou heureuse, est-ce que c'est possible ?
Mais les parents s'inquiètent aussi.
S'inquiètent énormément et culpabilisent, alors que je leur dis souvent, ne culpabilisez pas, vous y êtes pour rien, de toute façon.
Voilà. Très bien, alors jardin d'été, beaucoup d'activités de travail. Vous êtes combien actuellement d'adhérents ?
On est une soixantaine.
Oui, c'est déjà bien.
C'est bien.
J'espère que ça va prospérer.
Et hélas, tous ne sont pas...
Ah oui, parce que là, ça fait beaucoup de choses, effectivement. Ouais, hein, tu nous as parlé de toutes les actions qui sont très nombreuses. Donc tu es toujours sur la brèche, finalement, Florence.
Oui. Bon, je ne me plains pas parce que je suis handicapé d'une jambe, je n'ai pas de travail, mais parce que je ne peux plus travailler à cause de ma jambe. Donc je fais un temps plein.
Ouais.
Voilà, je remercie d'ailleurs au passage mon secrétaire personnel. qui m'aident beaucoup dans cette mission et voilà.
Je rappellerai tout sur la page Facebook de l'émission, sur le site internet. L'émission sera en podcast sur Arte Radio comme d'habitude et sur le site internet.
On peut le dire aussi, c'est le 0800 600 608,
la ligne d'écoute. Absolument. En tout cas, merci beaucoup,
c'est
Florence,
moi qui vous remercie.
Ça a été un réel plaisir de te recevoir et j'espère te recevoir et avoir des nouvelles du jardin d'été.
Avec plaisir.
Alors on va peut-être écouter. Alors merci beaucoup d'être venu. Bonsoir, bon retour. Merci les garçons d'avoir assuré comme des bêtes comme d'habitude. On va écouter un dernier morceau, il sera écourté, mais on va peut-être se mettre un petit morceau de Bambi, mais ça ne va pas durer longtemps, puisque on va nous couper la sifflette dans 50 secondes.
Aïe, 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 aïe.
Pluriel gay.